Les petites entreprises sont les piliers de l'économie et le cœur des communautés partout au Canada. Elles représentent notre esprit innovateur, nos cultures diverses et nos besoins communs. En appui à toutes ces petites entreprises qui continuent d'assurer notre croissance économique et aux commerces qui vendent fièrement leurs produits, voici, au-delà des codes à bord, un balado original présenté par GS1 Canada pour les gens qui s'intéressent aux petites entreprises et à tout ce qui touche l'entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue, je suis votre animatrice Isabelle Huot, docteur en nutrition. Chaque petite entreprise est composée de gens qui n'ont pas peur de rêver et d'agir. Des gens capables de s'adapter aisément, de changer de stratégie et d'innover pour assurer la croissance de leur entreprise. Étant moi-même une chef d'entreprise avec des grands rêves d'expansion, je comprends tout à fait le besoin de se démarquer quand on nage dans un océan d'options de produits. Mais comment faire en tant que petite entreprise pour à tout le moins être remarquée? Et comment faire pour passer d'un modèle B2C, entreprise client, à l'inclusion d'un modèle B2B, entreprise à entreprise? C'est là que GS1 Canada peut vous épauler en vous fournissant les données normalisées nécessaires pour éviter de manquer des occasions de mise en liste. Dans cet épisode d'Au-delà des codes à bord, on découvre la clé qui mène à la croissance d'une entreprise avec notre invité, le vice-président des ventes chez Colabor, Mathieu Dumulon. Merci d'être avec nous, Mathieu.
Bonjour Isabelle, ça me fait extrêmement plaisir.
Hey, assurément que vous pouvez m'aider. Moi, j'ai lancé une entreprise de prêt-à-manger. J'ai lancé des produits de déjeuner, collations, toutes sortes de produits, j'ai une centaine de produits. J'ai 1000 points de vente en termes de bannières traditionnelles. Mon rêve, c'est de percer le domaine HRI, hôtel, restauration, institution. J'ai le bonheur de vous connaître, mais pour le bénéfice des auditeurs, expliquez-moi que fait Colabor d'abord.
Donc, Colabor, c'est un distributeur alimentaire spécialisé dans le service alimentaire. Donc, on distingue deux grands créneaux dans l'alimentation. Mm-hmm. Le détail, ce qui est les épiceries, les dépanneurs, et le service alimentaire. Donc, tout ce qui est restauration, cafétéria, garderie, résidence pour personnes âgées, également les hôpitaux.
C'est un gros marché.
C'est un immense marché. On est présent dans toutes les régions du Québec. Plus de 10 000 produits et près de 5 000 clients.
Comment vous faites pour sélectionner un produit? On parle de 10 000 produits. Si moi, je suis une petite entreprise, je viens vous voir, je pense que j'ai un produit extraordinaire pour les hôpitaux, par exemple. Comment je fais pour rentrer dans le réseau de distribution Colabor?
Écoutez, il y a plusieurs trucs, mais je vais vous donner le plus gros, le plus important, c'est la demande de nos clients. Parce que nous, on est un entremetteur entre des fournisseurs, des manufacturiers, des artisans et des clients, des chefs, des restaurateurs. Et nécessairement, quand ces clients-là demandent un produit, ont besoin d'un produit, on se doit de l'offrir et de faire tout en notre possible pour pouvoir leur amener ces produits-là.
Les plus grosses demandes actuellement, quand le client il veut un produit, qu'est-ce qu'il recherche aujourd'hui en 2023 comme produit?
L'importance aujourd'hui, c'est vraiment la fonctionnalité des produits. Là, oubliez pas, je suis pas dans le détail, je suis dans le service alimentaire, donc les produits sont achetés pour être, pour la plupart, cuisinés ou retransformés ou...
Des gros formats, du vrac.
Effectivement, donc assurément les produits les plus performants, les meilleurs prix, mais la fonctionnalité des produits, donc les gens en restauration ont de moins en moins de temps pour faire cuire les aliments, de moins en moins de cuisiniers, donc c'est important que les produits soient prêts à servir, prêts à utiliser, très clairs en termes de packaging, en termes d'image.
Comme une viande, par exemple, qui est pré-cuite, qui est sous vide, ça facilite la vie avec le manque de main-d'œuvre. Ça sera un genre de produit qui pourrait être intéressant. Ça demande aux entreprises de s'adapter aussi, d'adapter les formats. Par exemple, on fait de la confiture, bien là, il faut peut-être faire un grand format justement pour les hôpitaux ou au contraire, des petits formats individuels pour vendre à la cafétéria.
Je pense que c'est un mix. Les gros formats sont très importants encore pour tout ce qui est industriel ou des grosses cafétérias centrales ou même les hôpitaux. Mais vous avez bien dit, souvent, les achats sont faits pour la revente immédiate parce qu'on fait un petit peu de détail. On fait quand même des boucheries, des charcuteries.
Vous avez des dépanneurs aussi.
Des boulangeries,
aussi.
Des dépanneurs. Donc là, c'est important que le format soit plus convenient pour être acheté immédiatement.
OK. Donc, si je suis dans un modèle d'affaires où je m'adresse aux consommateurs directement, dans des bannières d'épicerie, puis là, je me dis, je veux rejoindre un plus grand marché, celui de HRI, hôtel, restauration, institution. Quel conseil vous donneriez à un petit entrepreneur qui a envie de percer ce marché-là?
Le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'avoir un plan d'affaires solide. On voit beaucoup un petit peu d'improvisation, des gens, je vais faire attention à ce que je dis, mais des gens rêveurs qui ont un superbe produit, mais qui n'ont pas de plan d'affaires.
On est tous rêveurs. Ça, c'est vrai. Les entrepreneurs sont tellement rêveurs.
Gardez ce côté-là parce que nous, on a besoin. Parce que sans ce côté rêveur-là, nous, ce qu'on amène, c'est de la logistique. On est vraiment des experts en logistique. Pour répondre à votre question, au-delà du plan d'affaires, premièrement, ça prend un produit d'une qualité 100%, une stabilité dans le produit.
Standardisation.
Oui, effectivement. On peut pas se permettre de vendre des produits dans des hôpitaux ou des cafétérias qui, d'une batch à l'autre, excusez-moi l'anglicisme, va varier en termes de goût, en termes de couleur, en termes de quoi que ce soit.
Certification fédérale?
Ça dépend des produits. Plusieurs clients le demandent au niveau notamment de la protéine, mais juste en termes de stabilité. Ensuite, d'avoir de l'information précise sur les produits. Souvent, les gens, je les appelle les rêveurs, là, mais c'est très positif. Ils sont pas nécessairement certains de la provenance de tous leurs ingrédients. Ou ils le sont, mais ils sont pas capables de l'expliquer comme il faut. Nous, on va voir toutes ces questions-là. Quand on arrive pour vendre des produits dans les hôpitaux ou dans des résidences pour personnes âgées ou des garderies, on a toutes ces questions-là. Donc
les allergènes, la provenance.
On peut pas faire ce travail-là, mais on va vous indiquer quel travail doit être fait. D'avoir, je veux pas dire que c'est le plus important, parce que tous les points sont importants, mais la chaîne d'approvisionnement. Ce qu'on remarque souvent quand les gens passent par nous, au lieu de vendre à des restaurateurs directement. Fait que, supposons qu'ils ont 100 clients puis ils vendent une caisse. Ben, c'est une caisse à la fois chez nous. Moi, je vais les vendre une caisse à la fois, mais je vais vous les acheter en gros paquet. Je vais vous acheter 100 caisses, 1000 caisses, 2000 caisses.
C'est génial pour nous, c'est du volume.
Effectivement, mais les entrepreneurs sont pas toujours prêts à ça. Donc, en termes de durée de vie, en termes de qualité du produit, pour qu'on puisse acheter des quantités illimitées, puis d'avoir une bonne prévisibilité, un bon forecast sur les produits. Souvent, on arrive au mois d'avril, mai, les grandes entreprises sont prêtes, ils savent que le volume va augmenter, puis là, le forecast ou la chaîne d'approvisionnement, comme je disais, est pas prête à suivre. Pour nous, ces produits-là, si ça arrive deux, trois fois, on peut plus les tenir, c'est impossible.
Donc, faut arriver ultra préparé, connaître vraiment l'origine de nos matières premières, tout ça, arriver documenté. Mais une fois que vous acceptez, on est 1 sur 10 000 sur 15 000, là, c'est pas garanti que le produit va sortir, là.
Je dirais de lister le produit, là, le bon mot, c'est de référencer un produit chez nous, c'est l'étape 1, ou le round 1, si vous voulez. Ensuite, faut faire sortir le produit. J'ai une force de vente, plus de 100 personnes, mais n'oubliez pas qu'ils ont le mandat de vendre plus de 10 000 produits à 5 000 clients. Donc, on va être plus à l'écoute du client que de pousser les produits. Fait qu'on a développé au cours des années plusieurs outils de mise en marché, que ce soit des événements comme des salons d'achat, des salons de découverte des nouveaux produits. Les représentants sont là et les clients également. On invite les clients à venir. Donc, on a peut-être 1000 clients qui vont venir. On en fait 3 par année. Et puis là, ils vont pouvoir rencontrer les différents produits, les différents fournisseurs. Puis c'est important pour les fournisseurs de participer à ces événements-là.
Comme nouveau fournisseur, c'est comme un must de dire « je vais participer cette année à tout. Je vais me faire voir, connaître, me rapprocher des représentants. Plus le produit est vu, plus il y a de chances que le représentant parle de mon produit parmi les 10 000, 15 000. »
Assurément, puis on a d'excellents vendeurs, n'en doutez pas, mais les meilleurs vendeurs, c'est toujours les artisans du produit.
C'est clair.
J'ai plusieurs produits que je demande aux fermiers directement ou à l'agriculteur, au manufacturier, de venir rencontrer les clients. Puis nous, on crée ces tribunes-là. Ça serait impossible pour un fournisseur, pour un petit entrepreneur, de rencontrer 1000 clients en une fin de semaine. Via nos différentes activités, c'est possible. Lui, en parlant directement au client, là, ça crée de la demande. Là, on se voit dans l'obligation positive d'avoir les produits en inventaire chez nous. Mais assurément, souvent, les entrepreneurs arrivent, puis ils ont listé le produit, ils ont développé le produit, ils ont leur chaîne d'approvisionnement, mais ils ont $0 marketing.
Puis ça marche pas.
Le marketing, c'est un gros mot, là, mais pour moi, c'est de la mise en marché. Maintenant que votre produit est génial, il faut le dire aux gens. Au détail, en épicerie, c'est un petit peu plus facile parce que on peut prendre, permettez-moi l'expression, un layout, de faire 4-5 facings du produit, puis tout le monde va le voir. Moi, c'est un catalogue virtuel. Les gens, ils vont pas voir le produit, ils vont pas le lire. Puis, pas besoin d'aller faire de la publicité à la télévision pour ça. Mm-hmm. Mais si vous embarquez dans nos événements, nos circulaires, mais surtout nos événements live, quand on rencontre des clients, bien là, vous allez avoir la chance de parler à 100, 200, 300 clients en une journée puis de leur vendre, votre salade.
Parce que là, on parle d'un potentiel de points de vente supplémentaires par rapport aux bannières, aux petites épiceries, de combien de points de vente à travers Colabor?
Plus de 5 000 points de vente.
C'est énorme.
Tout à fait.
Absolument.
Bonjour, ici François Bouchard, premier vice-président, Relations et engagement avec la communauté chez GS1 Canada. J'espère que vous avez du plaisir à écouter notre balado au-delà des codes-barres. Pour plus d'informations sur comment GS1 Canada peut vous aider à démarrer votre entreprise, restez à l'écoute. Nous sommes ici en tant que partenaire stratégique de confiance auprès d'entreprises comme la vôtre.
Comment on s'assure de la rotation des produits? Parce que vous dites, j'achète plusieurs caisses. Je comprends, puis c'est plusieurs caisses avec une durée de vie de 3 mois. Comment on fait pour s'assurer qu'il y a un roulement qui est adéquat?
La durée de vie des produits, c'est un faux problème. Si le produit a une vélocité importante, on va réussir à le vendre facilement. Qu'on pense aux poissons frais, aux œufs, aux produits laitiers, du poulet frais, on en vend. On n'a aucune difficulté. Ce qu'il faut, c'est d'avoir de la bonne prévisibilité, donc du bon forecast. Nous, on le fait. Nous, on est des experts pour ça parce qu'on fait l'approvisionnement, le réapprovisionnement de plus de 10 000 produits à tous les jours. Donc, ça demande de ne pas avoir trop d'inventaire, notamment pour des raisons de durée de vie et de dollars, là, de cash flow, et de ne pas en manquer. On a un niveau de service de pas loin de 98%. Quand un client nous commande 100 caisses, si on n'est pas capable d'y en livrer 98, pour nous, c'est
un défaut.
C'est un défaut, c'est rouge, là. Surtout au service alimentaire, le cuisinier qui commande la farine, c'est pas pour la mettre sur une tablette, c'est pour l'utiliser demain pour faire des recettes. Puis, ils n'ont pas une grande chambre froide, ils n'ont pas un grand garde-manger pour garder du stock en inventaire. Le plus important, c'est la communication qu'on va avoir avec nos équipes d'acheteurs et les manufacturiers, les entrepreneurs, pour être capable de leur dire, voici ce qui s'en vient, voici la tendance du volume.
Si je suis une nouvelle cliente, par exemple, vous m'achetez plusieurs caisses, on sent que ça roule pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reprends mes caisses? Est-ce qu'on les vend en rabais? Est-ce qu'on décide d'investir davantage en marketing?
Les ventes à rabais, pour moi, c'est jamais une bonne idée.
Parce que ça réduit la valeur perçue du produit?
Oui, puis les premiers clients que j'ai le goût de dire aux entrepreneurs, c'est notre force de vente. Notre force de vente, plus de 100 personnes, si eux décident qu'ils vendent le produit parce qu'ils ont eu un essai fructueux dans un restaurant une fois, puis ils ont parlé du produit, puis ont vu la réception du client, assurément, ça devient un success story, puis
ils
vont se mettre à en parler.
Les meilleurs ambassadeurs.
Exactement. C'est comme dans un restaurant, la serveuse qui croit une bouteille de vin va la vendre et pas les autres. Peut-être qu'elle peut attendre que le client la demande, mais ça, c'est compter sur le hasard. Je pense pas que c'est une bonne idée pour nos entrepreneurs. Puis parmi la panoplie d'outils qu'on a, un de ceux-ci, c'est d'assister les représentants sur la route. Le manufacturier, l'entrepreneur, peut aller sur la route avec un représentant, visiter des clients et non seulement faire l'éducation auprès des clients, mais surtout du représentant. Parce que le manufacturier va faire 5-6 visites dans sa journée, mais le représentant en fait une trentaine dans sa semaine. Donc, le lendemain, même si l'entrepreneur n'est plus là, le message va être resté.
La proximité avec le représentant, c'est pas beaucoup qui offre en entreprise de distribution cette possibilité-là d'accompagner un représentant sur la route. Ça peut faire toute la différence.
Tout à fait. Puis on offre cette possibilité-là et également de la formation à chaque vendredi. 52 semaines par année, on a 2-3 fournisseurs, donc assurément plus d'une centaine, qui viennent former notre force de vente sur des nouveaux produits, sur des produits déjà connus, sur des produits à venir, sur les tendances du marché. Nous, on est très bons, mais on n'est pas spécialisés.
Oui,
donc,
c'est ça.
On a besoin d'informations. Puis chaque produit a ses particularités, chaque catégorie a sa particularité. Fait que des fois, comme représentant, on peut avoir de la facilité avec une catégorie ou l'autre, mais il faut avoir de l'information. Puis oui, on peut avoir de la documentation, mais quoi de mieux que de quelqu'un qui vient nous en parler, qui vient nous accompagner sur la route. Effectivement. Ces gens-là, c'est des artistes, c'est des magiciens. On adore les entendre parler. Puis, on est capable de traduire leur discours en éléments de vente pour savoir quelles sont les particularités du produit qui fait que chaque client, tu en as besoin. Puis, voici les avantages versus la compétition.
Ça me donne envie d'aller dans un de vos meetings du vendredi, tout ça, Mathieu. À quel point l'identité de marque, parce qu'on le sait, dans les bannières, en épicerie, c'est important, une marque qui résonne chez le consommateur, mais chez vous, la marque, c'est le produit en soi. Est-ce que la marque est importante?
Moi, je pense que les clients, les restaurateurs, réfléchissent de la même façon qu'un consommateur normal. Donc, oui, l'identité de marque, c'est très important, le positionnement. Sinon, pourquoi que le client commanderait le produit? Il faut le convaincre qu'il a besoin du produit. Puis au-delà du prix et tout ça, je pense que le positionnement de la marque, la promesse de la marque est très importante. Puis une fois que ce lien de confiance-là est créé, ben c'est un gage de succès pour le futur, pour les nouveaux produits qui vont être listés. Souvent, on va réussir à rentrer une marque chez un client. Puis une fois que le produit est rentré, Ben, on dit, savais-tu qu'il y a également, il y a de la soupe, il y a de les sauces, peu importe, au nom de la même marque. Donc, il y a déjà une vente qui est déjà faite en amont. Puis on a moins besoin de convaincre le client parce qu'il a adopté la marque.
Vous avez un comité de sélection. Comment vous faites pour choisir un produit?
Outre le fait que les fournisseurs viennent nous voir pour lister les produits, on reste à l'affût des demandes du marché. Les produits qui sont achetés aujourd'hui par des chefs cuisiniers ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans, donc ne sont pas les mêmes dans 10 ans. Donc, on se fie sur les fournisseurs, sur les manufacturiers, les courtiers, pour venir nous parler des nouveaux produits. Mais souvent, les nouveaux produits viennent de la demande de clients. Un chef cuisinier qui est allé à Las Vegas, qui a écouté une émission, qui nous arrive, qui dit « Avez-vous tel type de produit? » Donc, à chaque semaine, on a un comité de listing pour référencer les produits qui se réunit. Et puis là, on présente certains produits qui viennent du fournisseur direct, qui viennent d'un représentant ou qui viennent de la demande de client. La première chose qu'on va faire, on va comparer dans notre catalogue si on a un autre produit comme ça. Parce que si demain, j'accepte de lister votre produit, bien, je ne vais pas lister 10 produits qui ressemblent aux vôtres. Ce n'est pas une belle relation. Donc, on essaie de protéger nos fournisseurs, nos partenariats qu'on a, mais pas au détriment de l'offre pour le client. Donc, si on se rend compte qu'il y a une demande au-delà d'un produit, qu'il y a une demande qu'on ne comble pas avec notre catalogue, mais là, on va lister le produit.
Oui, parce que sinon, on va gruger les ventes d'un autre produit similaire, la compétition à l'interne. Ça, c'est sûr que c'est pas sain. Quel rôle joue le prix aujourd'hui avec l'inflation, vos clients? Est-ce qu'ils négocient les prix? Est-ce qu'il y a place à négociation ou pas du tout?
Comme dans tout, vous savez, les restaurateurs, c'est un métier où les gens sont très passionnés, mais c'est pas le métier le plus payant.
Non, on parle de 3 % de rentabilité nette. Je pense que c'est des statistiques publiées par l'Association des restaurateurs du Québec, là. Domaine alimentaire, on se le dit, c'est des très petites marges. On est là par passion, puis les restaurateurs, entre 3 et 5 % là, de marge nette annuellement.
Oui, effectivement. Oui, tout le monde va travailler sur le prix. Le prix est en fonction du volume. Fait que c'est une règle qui est de base, là. Le restaurateur qui achète plus de produits chez nous, plus de produits d'une X quantité, ben lui, assurément, il va avoir un meilleur prix. Mais le fournisseur peut travailler là-dessus. Si le restaurateur me demande un type d'huile, moi, j'en ai 25 sortes d'huile.
Mmh.
Sur lequel je vais décider de donner un rabais. Des fois, il y a des fournisseurs qui directement vont faire des ententes avec les restaurateurs. Puis moi, je vais honorer ce prix-là. Donc, ils vont m'aider à faire un bon prix. Mais malgré l'inflation, il ne faut pas rester juste dans le prix. Le consommateur ultime, la personne qui va manger au restaurant, va être prêt à payer si le produit qui est présenté en vaut la peine. Donc, si vous arrivez avec des produits, on appelle ça des produits MeToo, qui sont exactement les mêmes que ce qu'on a, bien, il faut vous démarquer au moins par le prix. Mais si vous avez des produits distinctifs, qui ont des valeurs différentes, qui ont un élément concurrentiel non imitable, le prix devient moins important. Quand on vend des tomahawks, là, les gros morceaux de bœuf qui se vendent présentement, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre dans le marché. Fait que le prix n'est pas important parce que le consommateur, au bout, est prêt à payer. S'il vient de développer un jus de pomme, puis j'ai 12 jus de pomme dans le marché, je vais arriver avec le 13e. Un, je ne mettrai pas d'énergie pour vendre ce produit-là parce que la clientèle est déjà bien servie. Et deux, il n'y a pas d'avantage pour le client de choisir ce produit-là. Mais s'il arrive avec un nouveau produit, là, c'est intéressant de le vendre, ou avec un produit qui se démarque des autres, ne serait-ce que par la portion, par le prix, par les valeurs nutritives, faible en sodium, produit local, peu importe les raisons. Là, ça nous donne des bonnes raisons de le vendre parce que nous aussi, on veut se démarquer de nos compétiteurs.
Mm-hmm.
Et pour se démarquer de nos compétiteurs, ce qu'on essaie de faire et ce qu'on fait très bien, c'est d'avoir plus de produits locaux. On est le plus gros distributeur québécois au Québec. Donc, c'est une responsabilité pour nous de travailler avec les fournisseurs québécois, pas à n'importe quel prix, mais de travailler puis les supporter.
Mathieu, à quel point c'est important pour vous que les compagnies avec lesquelles vous travaillez, vous faites affaire, soient abonnées à GS1 Canada?
Pour moi, c'est plus qu'important, c'est obligatoire. Pour moi, c'est un point de départ pour prouver la crédibilité de l'entreprise. Ça assure la crédibilité, comme je disais, pour bien partir. Puis c'est facilitant pour les distributeurs, pour les grossistes, pour trouver toute l'information pertinente. Souvent, les fournisseurs n'ont pas toutes ces informations-là archivées de la même façon. Il va manquer de l'information, il va manquer des détails. Donc, on sait que sur GS1 Canada, toutes les informations pertinentes vont être là en un clic.
Et si je résume bien, Mathieu, d'abord, on veut aller vous voir, on veut atteindre des nouveaux marchés parce qu'il y a un potentiel de 5 000 points de vente avec vous. D'abord, s'assurer qu'on a un produit qui est distinctif, que ce soit par la valeur nutritive, l'aspect local, les allégations nutritionnelles, les allégations de santé, le sans gluten et compagnie. Deuxièmement, de prévoir un budget marketing pour être capable de non seulement mettre le produit dans le catalogue, mais de le pousser, de faire des salons, de passer des journées avec les représentants sur la route pour faire la différence. D'avoir peut-être une durée de vie un peu plus longue pour commencer, pour nous aider, pour nous donner un coup de pouce. Puis si on remplit toutes ces conditions-là, main dans la main avec Colabor.
Donc, les chances vont être très bonnes.
Bon, ben j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Un grand merci, Mathieu Dumoulon. Comme entrepreneur, je pense que ça nous ouvre la porte à de nouveaux marchés. On rêve tous d'atteindre ces marchés-là. Industrie, on est habitué de parler directement aux consommateurs. Merci de nous avoir éclairés. Et puis, à la prochaine.
Merci, ça fait plaisir.
Nous venons d'écouter Isabelle parler de la croissance de l'entreprise au-delà du marché, au détail, et de son objectif de conquérir la mise en marché dans les grands hôtels, les restaurants, les institutions que nous appelons les HRI. Lorsqu'elle a commencé à travailler avec les détaillants en épicerie, elle devait fournir des informations de produits à ses partenaires commerciaux. Les collaborateurs de GS1 Canada lui ont permis de gagner la confiance de ses partenaires commerciaux et d'être prêt à faire affaire en créant des relations avec les principaux détaillants. Grâce aux subventions du programme Agri-Assurance du gouvernement du Canada, GS1 Canada a développé une initiative qui aide les petites entreprises à comprendre comment répondre aux exigences des partenaires commerciaux dans les canaux de l'épicerie et des services alimentaires. Le programme de certification commerciale offre des conseils et des ressources sur le processus de mise en liste de produits. Vous faites savoir si votre entreprise est admissible et en lire davantage sur ce programme sur notre site Web. Depuis le lancement du premier code-barre il y a maintenant 50 ans, les besoins des entreprises et la demande des consommateurs pour les informations des produits détaillés sont devenus de plus en plus importants, particulièrement pour le commerce électronique et les plateformes numériques. En 1973, les chefs de file de l'industrie se sont rassemblés pour évolutionner l'épicerie au détail avec le code à barre de GS1. Et depuis, nous continuons toujours d'innover et nous adaptant au monde en évolution et aux besoins changeants de l'industrie et des consommateurs. Et nous n'allons pas ralentir. Les collabores en 2D, comme le Data Matrix de GS1, sont les derniers développements qui permettent aux propriétaires de produits de fournir aux partenaires commerciaux une abondance d'informations, et ce, plus que jamais. Ces symboles minuscules sont la porte d'entrée pour de nouvelles occasions d'améliorer la confiance, la sécurité et la durabilité pour nos consommateurs, nos patients et notre planète. Même au-delà des lecteurs optiques en magasin, les collabores et les données connexes représentent une partie importante du commerce de détail, de la distribution et des relations avec les partenaires commerciaux. Les données et les images pour le commerce électronique fournissent de l'information de produits précises qui peut aider à éliminer les écarts des données potentielles et entraîner des occasions de mettre en liste des produits manquants. Appuyer la croissance des petites entreprises canadiennes est la priorité de GS1 Canada, et nous nous engageons à mettre sur pied plus d'initiatives, d'outils et de ressources. N'oubliez pas de nous suivre sur les médias sociaux pour des mises à jour importantes. Et merci d'avoir écouté Au-delà des collabores.
Je m'appelle Isabelle Huot. Merci d'avoir été à l'écoute d'Au-delà des collabores. Une série de balados créés pour les petites entreprises est présentée par GS1 Canada, un organisme sans but lucratif qui s'engage à offrir un soutien et des outils fiables aux petites entreprises afin qu'elles réussissent la mise en marché de leurs produits. Pour découvrir comment GS1 Canada peut vous aider à lancer votre entreprise et à la faire grandir, visitez le gs1ca.org.